la majorité de leur patrimoine. Ils vont essayer d'identifier des PME, des petites entreprises qui ont du sens pour eux, et ils vont apporter, en plus de leur investissement, du temps, de l'énergie et de la capacité à accompagner les entrepreneurs. Donc le fait pour un entrepreneur d'identifier, je dirais un peu, le business angel leader qui va fédérer tous les autres, c'est quelque chose qui est prioritaire, quelque chose qui est vraiment très important. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est identifier parmi les gens candidats investisseurs autour de vous, quel est celui qui a un petit peu de poids, qui est capable d'une part de fédérer les autres et d'autre part d'être votre interlocuteur, je dirais pas au quotidien, mais presque. Ils se retrouvent, tous ces business angels, dans des réseaux d'investisseurs que je vais développer par la suite, qui sont tous, donc ces réseaux, sont réunis dans une fédération. Donc la fédération n'a pas tellement vocation à être l'interlocuteur des entrepreneurs, mais beaucoup plus de l'ensemble des organisations qui veulent fonctionner avec cette fédération de business angels et qui interagit, cette fédération en France Angels interagit également avec les fédérations européennes ou mondiales de business angels, qui interagit également avec la BPI et qui réfléchit, qui contribue en tout cas aux réflexions sur tout ce qui est évolution fiscale ou législative sur le soutien à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une véritable vocation de France Angels. Ça n'est pas que de fédérer des business angels ou des réseaux de business angels, mais également de contribuer à apporter sa pierre au fait qu'il y ait un écosystème plus favorable à l'entrepreneuriat que ça n'était par le passé. C'est un petit peu le cas en France, mais avant qu'on donne naissance à des Google, des Facebook ou des Amazon, c'est pas de mal à veille, parce que c'est pas encore si facile que ça de développer des entreprises en France. Même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis ces dernières années. Alors pour être concret, je me suis dit que c'était bien de vous présenter quelques business angels. Quelques exemples, quelques personnes. Ça, c'est concret. Alors les business angels, bon, vous allez me dire, c'est ceux que j'aime bien. C'est ceux qui, moi, m'ont paru emblématiques et qui percutent un peu sur l'accompagnement des entrepreneurs. Donc Florence Richardson, elle est vice-présidente de Femmes Business Angels. Elle investit dans une dizaine de boîtes. Elle est au comité stratégique de 4 d'entre elles. C'est quelqu'un qui est de formation plutôt expert comptable et qui a une vraie compétence. Toutes mes présentations seront bien évidemment disponibles auprès des organisateurs. Denis Dole, c'est un business angel qui est investisseur dans une dizaine de startups également, qui est fondateur de Paris Angels Capital, la société d'investissement de business angels liée à Paris Business Angels. Toutes les coordonnées de toutes ces personnes, de tous ces réseaux sont sur l'annuaire de France Angels. Vous allez sur le site France Angels, vous retrouvez, pas forcément très facilement, hein, mais vous retrouvez l'ensemble des coordonnées des réseaux. Vous pouvez aussi faire sur Internet directement Paris Business Angels ou Femmes Business Angels, et par Google, vous trouvez tout de suite. Pierre Créau, il est Business Angel dans plusieurs startups. Il a été fondateur d'Angel Santé, donc avec moi. D'Angel Santé Création, la société d'investissement qui est liée au réseau donc Angel Santé. Il est également chez XMP, donc un réseau d'ingénieurs. C'est quelqu'un qui s'occupe de la stratégie de Arc International, le leader mondial du verre, pour boire, hein, du verre en verre. Guy-Charles Fano de Laurie, c'est quelqu'un qui est un pur produit du monde des biotechnologies. Il a été président de Biogen en France. Il était directeur commercial de Biogen aux États-Unis. Quelqu'un qui a fait un peu le tour du monde dans ce monde des biotech, qui est un véritable business angel, investisseur de très nombreuses startups également. Guy Gourevitch, qui est chez IT Angels, donc le réseau des Information Technology, et qui est également chez Paris Business Angels, et notamment chez Paris Angels Capital, la société d'investissement de Business Angels de Paris Business Angels. Claude Boulot, qui est le président du réseau Investessor. Il me semble qu'il en est également le fondateur, mais je n'en suis pas certain. Donc il est probablement le fondateur et il est le président du réseau Investessor, qui est un réseau qui est dans l'ouest parisien. Enfin, Patrick Andouche, qui est un business angel qui a le mérite de faire un blog qui s'appelle Business Angel France et qui est un business angel dans des petits projets. Donc voilà quelques exemples de business angel. Et puis il y en a d'autres, des médiatiques, hein, comme Niel, comme Kosciusko Morizet, Price Finister, comme Simoncini qui a fait Mythique. Les deux, là, Niel et Simoncini, avec Grandjean, ils ont fait quelque chose récemment qui a été de sélectionner 101 entreprises très en amont, très en amorçage, afin de leur apporter la possibilité d'un investissement assez original, qui est de 25 000 euros en obligations convertibles, qui sera converti à la première augmentation de capital qui suit, avec une décote de 25% sur la valorisation. Donc une approche tout à fait astucieuse, qui est assez frappante. Et donc ce sont des gens qui, eux, tous les trois, là, ces exemples-là, ces médiatiques, ne s'inscrivent pas dans les réseaux de France Angels. Tous ceux qui sont en haut, plus des dizaines d'autres, des centaines d'autres, 4000, plus de 4000 en France, s'inscrivent dans les réseaux de France Angels. Et ils ont donc signé un code de déontologie, une charte de fonctionnement qu'ils s'engagent à respecter. Trois du bas, c'est pas le cas. Hein. Vous avez des bonnes pratiques qu'on a essayé de mettre en œuvre avec France Angels et d'autres qui fonctionnent de manière plus libre. On peut dire qu'en règle générale, ça c'est valable pour le monde entier, il y a à peu près autant de business angels dans des réseaux structurés qui fonctionnent avec un cadre de fonctionnement et autant de business angels tout seuls qui fonctionnent de manière individuelle avec tous les risques que cela comporte. Quel profil ils ont ces business angels ? Une médiane de 55 ans, plutôt des hommes, un peu de femmes, mais ça augmente. Ça augmente notamment dans certains réseaux, comme bien évidemment Femmes Business Angels, le réseau des femmes, et chez nous, Angel Santé, ça représente entre un quart et un tiers des Business Angels. Et on voit donc qu'on a des gens qui sont des ingénieurs, règle générale, ou des entrepreneurs, et enfin des gens qui ont une activité de conseil. Alors là, je ne sais pas bien comment ça marche, mais vous allez avoir le témoignage. Là, en fait, c'est le témoignage qui est enregistré de quelques business angels. Et comme c'est sur une clé USB... Ah ouais, comme c'est sur une clé USB, ça ne va pas passer. C'est pas grave. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur certains de nos sites. C'était du témoignage, je dirais, verbal d'un certain nombre de business angels. Mais bon, je vais remplacer par différents exemples que je vais prendre. Alors, France Angel, ça fait quoi ? Ça fédère différents réseaux de business angels qui sont plutôt géographiques. Chaque réseau a une appartenance liée à sa ville, Lyon, Toulouse, Lille, etc. Donc ces réseaux, c'est une première segmentation géographique qui est historique en fait. Les réseaux historiquement se sont constitués par proximité des entrepreneurs dans lesquels les business angels investissaient. Il y a eu ensuite des réseaux nationaux, notamment thématiques, qui se sont développés. Puis enfin, il y a quelques réseaux étrangers. Alors, dans les réseaux généralistes thématiques, il y a un réseau de clean tech, de software, réseau santé, donc que je préside, que j'ai fondé, réseau agroalimentaire, image et culture, mode, et bien d'autres encore. Hein. Bois et forêt, voilà. Donc, ce sont des business angels qui ont envie d'investir spécifiquement dans certains domaines qui les intéressent plus. Il y a aussi des réseaux qui réunissent des anciennes grandes écoles, Arts et Métiers, Business Angel des grandes écoles, Centrale qui vient de naître, vient de se développer, ESSEC, etc. Ce slide, pour vous présenter la chaîne un peu virtuelle du financement des PME, au tout début d'une PME, généralement, avant même les incubateurs, il y a l'Agence nationale de la recherche qui peut financer de la recherche d'idées, de projets, jusqu'à, généralement, pouvant aboutir à une preuve de concept. Or que, en tant qu'expert auprès de l'ANR, j'ai vu qu'on finançait aussi de la recherche fondamentale qui n'aboutissait pas forcément à des preuves de concept. Donc l'ANR est très en amont et c'est une vraie approche de financement de projets généralement scientifiques, mais pas que scientifiques, techniques ou liés aux usages également. Un vrai développement de l'Agence nationale de la recherche. Vous êtes sur le site de l'Agence nationale de la recherche, je m'excuse parce que ça apparaît pas, mais c'est avant, en antécréation, ou même en post-création, il y a déjà des financements en France qui sont fléchés, qui sont très bien organisés. Les incubateurs apportent un petit peu de moyens à la création d'une société, et ça a beaucoup de sens d'aller rejoindre un incubateur, parce que ce sont des équipes qui vont vous accompagner dans la formalisation de votre business plan, de votre projet. Les business angels, eux, investissent dans une fourchette qui va de 100 à 500 kilos euros. Pourquoi ? Parce qu'ils se regroupent en réseau et donc ils vont investir à plusieurs, à 2, 3, 5, 10, jusque 100 business angels sur un projet. Donc ce qui fait des sommes qui vont de 5 kilos euros à 3 millions, médiane de 100 à 500 kilos euros. Avec une spécificité qu'on a voulu faire apparaître ici, c'est qu'ils investissent au tout début de la société, mais ils investissent également à des stades ultérieurs jusqu'à des boîtes qui sont à un stade très 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 avancé dans leur développement. Classiquement, on dit que les business angels sont en amorçage. La réalité que nous observons, nous, en tout cas dans notre domaine de la santé, c'est qu'ils sont à la création, ils accompagnent, ils sont en co-créateurs d'entreprises. Moi, j'en ai cofondé 10. Donc, bon, un exemple parmi d'autres. Ils sont en amorçage, bien évidemment. Ils sont également en capital risque, c'est-à-dire à des stades ultérieurs lorsque l'entreprise est plus développée. Et enfin, on a des business angels qui investissent à un stade beaucoup plus tardif en capital développement, des sommes qui sont parfois très importantes. On a eu le cas, nous, récemment, d'un business angel qui a investi 1 million d'euros dans une société. C'est pas de l'amorçage, là, on est déjà en post-amorçage. Et enfin, on a quand même beaucoup de gens qui sont également investis à l'introduction en bourse de sociétés. Donc, il faut être lucide sur le fait que l'accompagnement, qui est la caractéristique des business angels, se fait sur des sociétés, mais qui sont à différents stades de développement. Et il ne faut pas se dire mon projet n'existe pas, ou il est trop virtuel, trop petit, il est trop tôt pour que j'aille le présenter. Allez taper à la porte régulièrement des réseaux de business angels, parce que ça vaut le coup de créer une interaction avec les réseaux, quels qu'ils soient. Je passe rapidement là-dessus. On est, il faut être lucide sur le fait qu'on est quand même en période, entre guillemets, de crise, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent pour les PME, si ce n'est que les incentives fiscales successives qui se sont développées, hein, la loi TEPA qui a créé la défiscalisation sur l'impôt sur le revenu et sur l'ISF, ça a créé un véritable appel d'air qui se maintient, bon an, mal an, même si ça a été raboté, ça, c'est quelque chose qui se maintient. Le PEA, c'est-à-dire le fait d'investir à travers son plan d'épargne action, et le PEA-PME qui va s'ouvrir en début 2014, sont autant d'éléments sur lesquels on peut espérer que les investisseurs, si le cadre est à peu près cohérent, n'est pas trop compliqué, avec Bercy, ça c'est pas bien parti, généralement c'est très compliqué, si le cadre est acceptable, on peut penser qu'il y aura plus d'investisseurs qui vont apporter du financement privé auprès des PME. Un point très important, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Bercy dans la salle, s'il y a, qu'il lève le doigt, non, parce que j'aime pas épingler les gens quand ils sont pas là, donc je vais arrêter de le faire, mais ce sont des gens avec lesquels on travaille également étroitement, enfin, France Angels travaille étroitement, pour essayer justement de contribuer au développement d'un panier d'investissements possibles dans un domaine qui n'est pas si facile que ça à investir. On a bien évidemment des gens acteurs du capital risque, donc des fonds de capital risque qui existent dans notre marché, en France. Ils ont souffert pour lever des fonds récemment, ces dernières années, donc ils se sont plus restreints sur le fait d'investir sur les sociétés qu'ils avaient en portefeuille. Donc il y a eu une sorte de diminution des investissements depuis ces derniers mois, ces dernières années, de ces acteurs du capital risque dans les PME qui se développaient. Capital développement, lui, il a continué par contre à exister, à fonctionner. Donc c'est l'investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros dans des entreprises de taille importante. Et là, on trouve notamment un acteur important qui était Oseo, qui est maintenant BPI, ou le Fonds stratégique d'investissement. Tout ça est maintenant en recomposition en termes de nom, mais c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes acteurs. Donc on a des acteurs qui sont présents de manière significative. BPI, la Banque publique d'investissement, par ses différentes participations dans les différents fonds, est quand même très présente dans l'investissement dans des PME. C'est une des forces, de notre pays. Alors cette chaîne du financement, qui commence par les amis, la famille, les fondateurs, et puis aussi les fous, les gens qui sont capables d'investir de manière irrationnelle, parce que sur un coup de tête, ils vont investir dans une entreprise sur lesquels on sait que le risque est très élevé. Hein. Ils sont ensuite soutenus par des business angels qui prennent un risque élevé. Un business angel, quand il investit dans une PME, il a une probabilité non négligeable de jamais retrouver sa mise. Il met 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros sur une PME, dans une proportion significative de cas, la boîte va disparaître, et on le sait. Donc le risque reste élevé, et c'est en pointillé la courbe du risque, donc elle est très très élevée, cette courbe de risque, à la création de la société, et elle diminue bien évidemment avec le temps, avec le fait que l'entreprise passe des caps, atteint une taille critique en termes de commercialisation, en termes également d'offres de produits qui sont formatés sur le marché. Alors, comment investissent les business angels? Je vous pose la question différemment. S'il y avait des business angels ou des candidats business angels dans la salle, c'est comment est-ce qu'ils gèrent le risque relatif d'investir dans vos PME? Ils peuvent faire tout seuls. Et si vous avez des investisseurs qui fonctionnent tout seuls, bah bravo, tant mieux. Mais vous leur faites prendre un risque très élevé s'ils fonctionnent tout seuls. Un business angel qui investit tout seul dans une entreprise, c'est très bien. Mais c'est quelqu'un qui va prendre un risque élevé parce qu'il est seul face à l'entrepreneur. Et donc dans la négociation et le suivi de son entreprise, c'est pas forcément très facile. S'il fonctionne avec un réseau de business angels, il y a un effet taille. C'est-à-dire qu'en fait, les business angels vont se mettre à 2, 3, 5, 10... pour investir dans la PME. Ils vont bien sûr négocier avec vous les termes de cet investissement, mais c'est beaucoup moins, je dirais, dur que ce que vous proposera un fonds d'investissement, puisque le business angel va en général s'impliquer aux côtés de l'entrepreneur pour contribuer au développement d'une belle histoire entrepreneuriale. Et c'est ça la caractéristique de la plupart des business angels, c'est qu'ils sont plus passionnés par l'aventure entrepreneuriale parce qu'ils l'ont vécu généralement pour une bonne partie d'entre eux, et ils ont envie de s'investir, de s'impliquer dans un projet en étant lucides sur les difficultés que vous rencontrez et que, ensemble, vous rencontrerez demain. La troisième étape, ou plutôt le troisième mode d'investissement d'un business angel, c'est le réseau. Pardon, c'est le fonds, la société d'investissement, la SIBA. SIBA, ça veut dire Société d'investissement de business angel. C'est le fait que 10, 20, 30, 50 business angels, si on respecte la législation actuelle, peuvent s'associer, créer un petit fonds dans lequel ils mettent leur argent, et c'est ce fonds qui va investir dans vos petites et moyennes entreprises. Les réseaux et les sociétés d'investissement de business angels, je ne l'ai pas fait figurer sur le graphe, mais ça sera la prochaine version, ont noué des partenariats avec des fonds issus du grand emprunt, du Fonds national d'amorçage, qui fait que maintenant, quand ils investissent dans une PME, ils ont une capacité de doubler les sommes investies en faisant appel à des fonds comme le Fonds régional de co-investissement Île-de-France, ou dans les régions, il y a également des fonds de co-investissement avec les business angels, qui vont investir pari passu la même somme. Pari passu, ça veut dire aux mêmes conditions. Donc, un réseau met 100 000 euros dans une PME, fait appel à un Fonds régional de co-investissement qui étudie bien évidemment la société, dit « d'accord, j'investis », ça va faire, non pas 100 000, mais 200 000 euros au total. Et ça fait surtout une capacité de réinvestissement dans 1, 2, 3, 5 ans, quand vous aurez besoin de croître, qui est significative, qui est importante. Donc c'est très important d'avoir en tête le fait que le panorama demain sera structuré par les réseaux et par les fonds de business angels qui ont une capacité démultipliée. Je vais prendre l'exemple d'Angel Santé, excusez-moi, mais je parle pour ma paroisse. Si Angel Santé, 25 business angels ont investi dans la société Angel Santé Création, et un institutionnel est arrivé en juillet, Malakoff Médéric, qui a simplement doublé les sommes. Ce qui ne nous empêche pas d'aller voir les fonds issus du Fonds national d'amorçage pour encore doubler les sommes. Et Angel Santé a des liens, a signé des accords avec le Fonds régional de co-investissement en Ile-de-France, des fonds régionaux, il y a Strasbourg, il y a Nantes, il y en a plusieurs qui nous ont contactés, et enfin le fonds Angel Source, qui vient de se lancer et qui a une capacité de démultiplication de 1 pour 1 au premier et deuxième tour, mais de 1 pour 10, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre 10 fois plus sur les troisième tours. Donc pour des entreprises sur lesquelles nous, ce qu'on attend, c'est qu'elles croissent, c'est qu'elles se développent, on sait très bien qu'elles auront besoin d'argent, ces entreprises. On sait très bien qu'elles auront besoin de refaire des augmentations de capital si elles veulent devenir demain des entreprises de taille intermédiaire solides. Et bien nous, on essaie de s'organiser pour pouvoir apporter ces financements. Donc les réseaux de business angels, c'est pas très facile, c'est pas forcément simple d'interactivité avec eux, mais lorsque ça fonctionne bien, c'est un levier colossal. Donc voilà, vous pouvez avoir une multitude d'interlocuteurs. Donc vous êtes le directeur du projet, vous êtes le general manager de votre PME, et bien vous pouvez avoir une armée de personnes en face de vous. Et donc vous devez répondre au téléphone, aux mails, aux courriers, aux demandes de renseignements de cette multitude de petits investisseurs. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'avoir un seul interlocuteur qui représente une société d'investissement et avec qui vous travaillez régulièrement. Et avec qui vous allez exprimer, bon là, j'ai besoin d'un appui sur tel segment, sur tel marché, sur tel sujet. Et chez nous, on va regarder parmi les différentes personnes qui sont parmi la masse des gens, je ne suis pas très très doué avec cette, parmi cette masse de gens, on va trouver des gens qui sont compétents en industriel, d'autres qui sont compétents en stratégie, d'autres qui sont compétents en propriété industrielle, d'autres qui vont être plutôt des commerciaux. Et donc on peut faire appel au sein de nos réseaux, au sein de nos structures, aux gens les plus compétents pour pouvoir répondre aux questions que se posent l'entrepreneur. Deux mots sur Angel Santé. C'est une association qui s'est créée en 2008, qui a été labellisée par le ministère de l'économie. Donc en fait, on est un pur produit de Bercy, c'est-à-dire qu'on a été soutenu par le ministère de l'économie. On a été élu réseau de l'année en 2009 par les autres réseaux, c'est-à-dire qu'a priori, ils trouvaient qu'on n'était pas trop nuls. Plus de 100 personnes ont investi à travers le réseau depuis sa création, a reçu plus de 300 projets. On a entre 30 à 40 personnes actives annuellement dans le réseau, et plus de 20 personnes nous ont rejoints cette année. Donc on voit que nous, on est en phase d'infection. On a encore un réseau très artisanal, qui fonctionne avec un jeune en alternance qui répond au téléphone lundi, mardi, mercredi aux entrepreneurs. Donc c'est pas encore très très structuré, mais on est en voie de développement très important. On est au début de l'exponentiel en fait. Je vous laisse lire les chiffres. Enfin voilà, on investit dans pas mal de boîtes que je vous présenterai après. On rassemble qui ? On rassemble des gens qui ont une compétence spécifique du secteur de la santé. Assurance mutuelle, par exemple, dans toute la partie assurance santé. Directeur de clinique. On a des gens qui sont des experts thématiques. M&S et fusion acquisition. Des gens qui sont issus des systèmes d'information, de stratégie, de différents domaines de l'administration et de la finance. On a beaucoup de cadres issus de l'industrie pharmaceutique. Alors, j'en ai cité quelques-uns, des laboratoires, mais il y en a plein d'autres. On a enfin des professionnels de la santé. Et on en est au tout début du fait d'accueillir des professionnels de la santé, parce que initialement, on n'a pas cherché à les accueillir parce qu'on pensait, à tort ou à raison, que c'était des gens qui n'étaient pas forcément très fluides dans la relation à l'argent investi dans une PME. Alors que les cadres dirigeants d'entreprise ont une relation peut-être plus fluide avec ce que c'est qu'une entreprise, puisque on est cadre dirigeant d'une entreprise, on comprend très bien ce que c'est qu'une petite entreprise. Quand on est médecin en exercice libéral, c'est pas forcément très simple, de comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Je suis médecin, donc je parle au nom de mes pairs et je mesure les questions, les interrogations qu'ils ont. C'est pas simple pour eux. Je pense que dans les années à venir, on aura des dizaines, des centaines de professionnels de santé qui vont nous rejoindre. Et enfin, il y a bien sûr des gens qui n'ont pas de compétences santé, mais qui ont envie d'investir dans la santé, dans la silver economy, qui sont chez nous. On investit dans tous ces secteurs, donc médicaments, biotech. Ça, c'est le gros de l'investissement. Vous trouverez ça sur notre site. C'est des choses qui sont tout à fait accessibles. On investit dans tout ce qui est dispositif médical. Le dispositif médical, je vous le rappelle, ça va du stérilet jusqu'au logiciel embarqué, jusqu'au bracelet ou petit dispositif comme WeSings qui vous permet de mesurer votre fréquence cardiaque ou différentes choses. Donc, c'est d'une très grande variété, les dispositifs médicaux. On investit également dans les services. Enfin, dans tout ce qui est nouvelles techno et santé, qui est un segment artificiel, mais sur lequel, nous, on pense qu'il y a un avenir prometteur. On n'a pas vu encore beaucoup d'entreprises se développer de manière très importante sur ce segment-là, parce que les marchés sont pas encore au rendez-vous, et on est frappé, nous, de voir l'inertie de marchés bien formatés qui ont du sens. Le monde du médicament ou de ce qui se vend à une pharmacie, ça fonctionne. Les pharmaciens y vendent. La télésanté, il n'y a pas encore de circuit d'achat ni de vente de ça. C'est pas simple d'acheter de la télésanté. Si vous voulez acheter votre outil de télésanté qui va vous suivre demain, moi en tant que consommateur, je ne sais même pas comment faire. Donc il faut être lucide sur le fait que les marchés et les canaux de distribution, c'est quelque chose de très très important. Et donc il y a une inertie à l'acquisition de nouvelles technologies liées au fait que tant que l'acte de consultation médicale à distance n'est pas remboursé, il n'y a pas le choix, il faut aller chez son médecin pour se faire rembourser. si je téléphone à mon médecin ou si je veux une consultation par Internet, c'est payant. J'ai zéro remboursement. L'obligation d'aller donc chez lui. Ça, c'est la réalité 2013 en France. Donc, même si le législateur aimerait bien que ça se développe, factuellement, c'est pas tout à fait la réalité. Donc soyez lucide dans les développements des marchés d'entreprises que vous allez développer sur le fait d'être pragmatique, réaliste sur les canaux par lesquels vous allez vendre. Quelques exemples de sociétés dans lesquelles on a investi. Alors Sensic, c'est une société de Poitiers qui développe des plateformes de force, des mesures de préhension de la force, en rééducation, mais pas qu'en rééducation, par exemple. On a des clients dans le domaine du cyclisme. Primadiac fait des outils pour les laboratoires, des kits pour les laboratoires. Alizé Pharma fait des produits pharmaceutiques. Citrage, totalement dans la Silver Valley. Citrage, c'est une molécule qui s'appelle la citruline qui renforce la masse musculaire des soigneurs, qui existe donc en vente, en pharmacie, et qu'on est au tout début de son histoire. Ce sont des scientifiques et qui souffrent un peu parce qu'il manque un peu d'équipe business ou de gens business dans leurs équipes. Donc s'il y a des gens business qui ont envie de s'impliquer dans le développement d'une entreprise qui tarde à faire son envol par manque de manpower, de gens compétents business, vous pouvez les contacter de ma part, ça sera toujours bienvenu. C'est une très belle société, Citrage. Santec, ils sont exposants juste en face. C'est une SS2I, donc une société qui essaie de développer des projets dans le domaine notamment de l'e-santé, qui a gagné un appel d'offres dans l'e-santé pour des grands comptes, avec de très nombreux partenaires, Atos, ICAD, etc. Nutriversel fait des compléments alimentaires dans la prévention des infections urinaires et maintenant en anti-inflammatoire. C'est une société qui est née en 2009, qui va faire plus de 3 millions d'euros en 2014, qui fait 1,7 million en 2013, qui est une des réussites de celles qu'on a investies. Navirvax fait de la recherche sur un vaccin contre le sida, et Marina, c'est un petit ver marin qui transporte de l'oxygène à marée haute. À le petit ver marin, il ne peut pas aller respirer. Donc il consomme l'oxygène qu'il transporte, et à marée basse, il peut respirer. Si ce n'est que le petit ver marin, il n'a pas, comme vous et moi, des globules rouges, de l'érythropoïétine, qui transporte l'oxygène. Le transporteur est un autre support qui est dans le corps du ver marin, parce que le ver marin, il est acellulaire. Cette solution a été isolée par Emarina, et aujourd'hui est vendue à des clients comme l'US Navy, qui, lorsqu'ils ont, je sais pas moi, un Marines qui a un bras coupé en Irak ou ailleurs, avant on mettait ça dans la glace, maintenant on met ça dans une solution des Marina. Donc c'est des vraies innovations. Je vais pas aller plus loin sur les différentes autres sociétés, parce que ce serait un petit peu lourd de vous les évoquer, mais vous voyez, une très très grande diversité d'entreprises dans lesquelles on a déjà investi. La CIBA, j'en ai déjà parlé, mais donc je vais être très rapide. C'est le moyen d'investir aux côtés d'investisseurs qui sont plutôt qualifiés, qui sont assez solides, qui sont d'ailleurs à un niveau d'exigence très élevé. Donc c'est vrai que être investi par la CIBA, faut se lever tôt et faut avoir réussi à passer toutes les étapes qui font que on arrive à s'entendre. Mais par contre, c'est le gage d'une possibilité d'accompagnement ou de réinvestissement réel et tangible. C'est possible aussi de rejoindre, bien sûr, la CIBA en tant qu'investisseur. Hein. S'il y en avait dans la salle, je crois pas, mais bon. Parmi les nouveaux entrants. Les critères d'investissement de la CIBA, c'est le secteur de la santé au sens large du terme, dont bien évidemment la silver economy. Hein. Avec des critères, la qualité de l'équipe. On cherche des gens qui soient de vrais entrepreneurs. On cherche des gens qui aient une véritable capacité à prendre une entreprise, une idée, et à la développer de manière forte. Avec des critères quantitatifs, c'est des tours de table qui soient initialement inférieurs à 1 million d'euros et sur le premier tour auquel on participe à des valos inférieurs à 3 à 5 millions d'euros, donc des sociétés en amorçage. Quelques mots maintenant sur l'activité des business angels dans le monde. Vous voyez que 13% investissent dans les biotech et il y a plus de 300 000 business angels dans le monde. En France, 83 réseaux. Plus de 4000 business angels dans ces réseaux, donc ça fait environ plus de 10 000 business angels actifs, donc personnes susceptibles d'investir dans des PME. Un segment santé biotech, donc le segment qui nous intéresse, hein, silver economy au sens large du terme, qui n'est que de 10% et qui est lié au fait que notre réseau est récent. Donc les business angels ont encore une faible capacité à investir dans ce segment. Je pense que ça va évoluer de manière très importante dans les années à venir. Quelques éléments maintenant sur le processus d'investissement que je n'ai pas détaillé complètement au cours de ma présentation parce que ce serait très long. Mais entre l'envoi du dossier initial que vous faites au réseau de Business Angel, c'est-à-dire que vous mettez vous allez sur Internet, vous faites, je ne sais pas moi, Limousin Business Angels ou Armor Angels, vous êtes en Bretagne, et vous identifiez le réseau qui est le plus proche géographiquement de chez vous. Et vous envoyez sur la plateforme de ce réseau, il y a différentes plateformes, mais il y en a une qui est utilisée par la plupart des réseaux de Business Angels qui s'appelle Gust, qui est une plateforme qui permet de recevoir toutes les informations que vous voulez déposer sur le projet. Donc qui crée un espace, sur Gust, vous créez un espace dans lequel seul vous, entrepreneur, pouvez aller pour déposer votre business plan, l'information financière sur la société, et puis un certain nombre de réponses aux questions que l'on pose. Ça prend un peu de temps pour rentrer toutes ces données, mais une fois que vous l'avez sur Gust, vous pouvez l'ouvrir, vous, à différents réseaux auxquels vous postulez. Donc c'est ça la mécanique de fonctionnement qu'on essaie de mettre en œuvre pour essayer de vous simplifier. Plutôt que de saisir 40 fois sur 40 plateformes différentes, on essaie de privilégier pour, je crois, 80% des réseaux en France, cette plateforme Gust. Il existe d'autres plateformes qui ont été développées par quelques réseaux qui voulaient être indépendants, et à ce moment-là, vous êtes obligé de saisir toutes les données sur ces réseaux. Ça, c'est pour l'envoi de votre dossier. Une fois que votre dossier a été envoyé, il va être reçu par le délégué général du réseau. Mon conseil, c'est d'envoyer en parallèle à plusieurs dossiers, à plusieurs réseaux. Faut être lucide sur le fait que il y a plusieurs groupes d'interlocuteurs, donc faut pas hésiter. Le délégué général va ensuite vous recontacter en vous disant, vous allez présenter en pitch. Le pitch, c'est quelque chose qui dure de 1 à 10 minutes, généralement 5-6 minutes. Pour voir si le dossier rentre dans un cadre qui peut concerner ce réseau et si un instructeur veut bien se charger d'être votre interlocuteur. Donc c'est l'identification, c'est une présentation très rapide qui permet de savoir si, oui ou non, ça concerne le réseau, oui ou non, il y a un business angel qui veut bien entamer l'instruction du dossier. Chez nos réseaux, c'est entre 5 à 10 minutes, hein. Je parlais tout à l'heure de Niel Grandjean et puis Simone Sini qui ont fait passer 101 sociétés. C'était 1 minute par projet. 1 minute et pas une seconde de plus. Comme mon fils a postulé puis qu'il a été lauréat, j'ai pu mesurer ce que ça voulait dire que 1 minute quand j'ai vu le pitch. Ça a du sens de s'entraîner à pitcher en très peu de temps, à dire uniquement l'essentiel. C'est un véritable exercice de style qui est pas facile, mais qui est indispensable. Quand vous allez rencontrer un business angel tout seul, vous n'avez pas 3 quarts d'heure pour lui raconter votre vie. Vous avez 1 minute, 10 mots-clés. Ça l'intéresse ? On prend rendez-vous pour une réunion où on pourra discuter sur le fond, sur tel ou tel sujet. Mais cet exercice de style, en fait, vous n'y couperez pas. C'est quelque chose d'important. Donc je vous conseille de vous entraîner vidéo, hein, ou vous filmez. Et puis vous voyez ce que vous êtes capable de dire en 1, 3, 5, 10 minutes. C'est un véritable exercice de style que je conseille à tout le monde maintenant. La présélection, donc il y a différents modes de présélection en fonction des réseaux. Mais généralement, il y a ce format de pitch dans la plupart des réseaux, c'est-à-dire de présentation courte. Ce n'est pas le cas chez Angel Santé, c'est une présélection qui est différente sur dossier. Mais la plupart des dossiers sont présélectionnés par ce format de présentation très courte. Donc il y a une après-midi, 10 entrepreneurs qui passent. C'est un peu frustrant, mais c'est le seul mode qu'aient trouvé ces réseaux de business angels pour vous permettre de les rencontrer, de se présenter. Et ensuite, la présentation plus approfondie, donc, on appelle généralement en plénière, et il y a un certain nombre de réseaux qui ne présentent en plénière, c'est le cas de Paris Business Angels, qui ne présentent en plénière l'entrepreneur que lorsque l'investisseur instructeur dit « Ok, je suis prêt à investir dans cette société. » Et donc vous pouvez m'accompagner, moi, investisseur dans cette société, et co-investir avec moi. c'est un format. Chez d'autres réseaux moins développés, le format est un petit peu différent. On présente un projet qui n'est pas forcément instruit de manière approfondie par un business angel. Donc il y a des formats très différents selon les réseaux. Ensuite, à la suite de cette plénière, vous allez subir par un stade qu'on appelle due diligence. C'est-à-dire qu'en fait, on étudie de manière approfondie votre dossier sur toutes ses facettes. Donc s'il y avait quelque chose qui était planqué, ben, on va le ressortir. Donc si vous avez quelque chose qui ne va pas dans la société, je ne sais pas, n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire très tôt. Ce n'est pas forcément rédhibitoire et on peut faire avec. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre société qu'il faut le cacher. Parce qu'on finira forcément par tomber dessus à un moment ou à un autre. Et quand on tombe dessus tardivement, là, ça disqualifie le projet. Un point très important, ça. Enfin, il y a le closing. Généralement, dans le closing, on va négocier en amont donc, hein, du closing un pacte d'actionnaires et d'éventuelles modifications des statuts. Si vous êtes une EURL ou une SARL, vous y couperez pas, vous deviendrez une SAS. Avec un comité stratégique ou un conseil de surveillance, enfin, une entité dans laquelle les business angels, les investisseurs, sont représentés et où ils demandent d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Tous les trimestres, un tableau de bord. Tous les mois, le chiffre et les ventes. Un certain nombre d'éléments clés. Donc il y a un devoir, je dirais, de l'entrepreneur, d'information vis-à-vis de ses investisseurs. C'est très important, ça, d'informer ses investisseurs intelligemment. Donc il faut s'y préparer également. Une fois qu'on est dans le closing. Et également, les modalités d'entrée, donc les conditions d'entrée, valorisation de la société, valeur de la part, qui sont discutées. À un stade ultérieur, lorsque l'entreprise se développe et qu'elle est face à des fonds d'investissement, vous verrez qu'il y a un certain nombre de fonds qui disent « Moi, je veux des actions préférentielles. » Là, ça se complique vraiment. Donc, il y a des business angels généralement assez solides qui peuvent vous accompagner également dans ces discussions avec les fonds de capital risque. Ensuite, une fois que vous avez levé des fonds, c'est très bien, mais l'histoire ne fait que commencer. Donc il y a eu toute cette période qui a duré de 15 jours. On a réussi un closing, nous, en 15 jours. En fait, c'était la fin d'un closing auquel on se rattrapait. On l'a vécu à généralement 6 mois. Donc quand vous commencez à discuter avec vos investisseurs, sachez que ça ne va pas se faire dans les jours qui suivent. Sauf si vous avez tout préparé, que vous êtes en closing, là, pour le 31 décembre. Donc, c'est à prendre ou à laisser. L'investisseur, il prend votre offre, ou alors c'est pour dans 6 mois, et il faut laisser le temps à vos investisseurs d'instruire votre dossier. Et ensuite, le suivi. Et le fonctionnement que vous allez mettre en œuvre avec vos investisseurs est quelque chose qui est crucial. C'est pas simple de faire le suivi d'une entreprise qui investit. Et il est évident que les objectifs de l'entrepreneur, les objectifs des business angels et les objectifs des fonds d'investissement qui peuvent rentrer un jour sont totalement divergents. Il faut être lucide et l'accepter. On n'est pas sur un mariage ou un pax, c'est pas ça. On est sur une sorte de mariage de raison avec des objectifs bien précis et des attentes des uns et des autres qui sont différentes. Dans tous les slides que je laisserai aux organisateurs, vous avez le détail de tout ce que j'ai pu évoquer là. Comment nous contacter? Ça, c'est un point important. Pour les entrepreneurs, vous pouvez nous contacter sur notre site. Vous faites par Google, Angel Santé. C'est simple, on est tout seul. Il y a un petit réseau qui existe à Lyon qui s'est développé, et puis il y a d'autres petits groupes qui se développent. Mais enfin bon, Angel Santé sur l'ensemble de la France, Belgique, Suisse, actuellement le leader. Pour les investisseurs, vous pouvez également, donc s'il y a des gens investisseurs qui veulent nous rejoindre, vous pouvez contacter notre délégué général qui s'appelle Antoine Lerouge. Le téléphone et puis le mail sont sur Internet, hein, vous n'avez pas besoin de les noter, tout ça. Si vous faites notre site, vous trouverez ça. Hein. Et enfin, vous pouvez, pour les partenaires, contacter France Angels. Donc, comme je n'ai pas le numéro de téléphone quand j'ai fait le slide ce matin, je m'excuse auprès de Benjamin, parce que je n'ai pas mis mais France Angels, il y a un site, il y a des interlocuteurs. Et donc, pour les partenaires, ça a du sens de contacter France Angels, qui est la fédération qui organise l'ensemble de l'activité. Un mot maintenant sur un coup d'humeur. Maintenant que je vous ai parlé des business angels, je vais quand même mettre un petit peu les pieds dans le plat dans les choses qui, pour moi, sont pas forcément des bonnes pratiques en France. L'université de Pittsburgh, dans une étude qu'elle a publiée le 28 novembre, via le New England Journal of Medicine, qui est notre journal de référence pour nous, les médecins ou les chercheurs. Elle a permis de visualiser tous les cas recensés de pathologies qui sont aujourd'hui soignées par des vaccins. En rouge, vous avez les décès depuis 1888. Hein. Puis après, la gravité relative des différentes pathologies. Ce qui est très intéressant, c'est que cette université de Pittsburgh, elle a sorti des données à partir desquelles certains vont inventer les vaccins de demain. Pendant ce temps-là, l'assurance maladie en France, elle garde toutes mes données, vos données, dans un coffre-fort barricadé. Merci à l'université de Pittsburgh et carton rouge à l'assurance maladie. On ne peut pas développer les choses innovantes en France si l'écosystème nous freine. Et là, c'est un message collectif que je lance, et on doit tous exprimer notre désaccord. Vous ne pouvez pas, vous, entrepreneurs, développer des choses innovantes si vous êtes obligés d'aller chercher des bases de données d'information chez les Américains, les Indiens, les Chinois, les Allemands ou les Belges. C'est pas possible. On marche sur la tête. C'est inacceptable. Voilà, c'était mon coup d'humeur. Fini. C'était ce matin, 7h du matin, j'étais sur Twitter et on m'envoyait ça. Les Américains, en plus, ils me pushent de l'information. Et enfin, deuxième élément, c'est que nous, on a en réflexion un projet d'accélérateur de choses innovantes dans la santé. Notre objectif, c'est d'accompagner des PME pour accélérer leur développement par des business angels organisés, en pont avec les acteurs de l'écosystème, et on recherche, bien évidemment, pour développer ça, donc là, c'est un appel, je dirais, plus général, des locaux dans Paris idéalement proches d'hôpitaux de la PHP, des mentors, des business angels volontaires dans cette approche d'accélérateur. Enfin, des projets de premier rang qui aient été sélectionnés par les réseaux de business angels. Donc c'est pas la peine que les entrepreneurs nous contactent directement. C'est quelque chose qui aura vocation à prendre des PME déjà investies et de les accompagner pour qu'elles se transforment plus rapidement en entreprises de taille intermédiaire. Et bien évidemment, on cherche des institutionnels qui s'engagent à nos côtés. Là, j'en ai fini. Je réponds maintenant à toutes vos questions. Sur les business angels, leur mode d'emploi, hein, parce que mon coup d'humeur, il est passé. Hein. Business angels, c'est clair, non ? Question ? On va vous passer un micro, monsieur.
Bonjour. Ça marche ?
Ça marche. Oui,
bonjour, je voulais savoir pendant combien de temps on pouvait placer son argent.
Plus proche.
Ou peut-on se retirer dès lors qu'on a envie ?
Je n'ai pas entendu.
Ah. Ma question était de savoir, est-ce qu'on peut placer l'argent à très court terme ou à court terme et se retirer quand on veut? Ou alors il y a une durée limitée comme dans beaucoup de placements,
genre
5-6 ans, 7 ans?
On n'est pas un fonds monétaire, les business angels ne sont pas des fonds monétaires dans lesquels vous pouvez placer votre argent. Là il y a des banques qui font ce métier-là. Les business angels sont des gens qui investissent dans le capital de PME, mais qui vont aussi s'impliquer auprès des entrepreneurs. Donc on ne fait pas, nous, de placement à court ou moyen terme. C'est pas la vocation des réseaux de business angels. La vocation, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs qui ont envie d'avoir des gens qui leur mettent un peu d'argent, mais qui aient une capacité d'incentive pour le développement de la société. Pour votre question sur les placements, moi, je vous renvoie vers votre banque, ou la voisine, qui fait des produits comme des fonds d'investissement de proximité, des FCPI, des FCPR. Et dans les sociétés d'investissement, si peut-être est là votre question, les sociétés d'investissement de Business Angels, on investit pour une durée de 8 ans, en fait. Donc la Angel Santé Création est une société qui est née en 2010, qui a ouvert son capital en 2011-2013, et qui le rouvrira pour une dernière fois en 2014, mais la fin de la société, c'est 2018. Donc on va liquider... On vendra les participations en 2018. La durée de vie du fonds est de 8 ans. Donc là, oui, excusez-moi si c'était la question. C'est pas société d'investissement, c'est possible d'investir. Il y a une délégation pour ça. Autre question ?
Je voulais savoir si pour vous, quand vous parlez de santé, vous structurez ça ou vous spécifiez ça sur tout ce qui est médecine, high-tech, ou est-ce que pour vous aussi la santé, ce serait la création d'une structure qui n'existe pas en France, qui serait une structure intermédiaire et qui là serait en fait quelque chose de la santé qui serait plus identitaire, plus mental. C'est-à-dire que maintenant on a dans notre société des mots d'aujourd'hui qui sont les accidents de la vie et qui en fait au bout d'un moment mettent les personnes en situation de précarité et qui en fait moi j'ai pas trouvé en tout cas en France quand on arrive au bout de quelques années ou quelques mois de maladie, de burn-out, de dépression ou tout simplement de chômage, il n'y a pas vraiment de structure qui permette de réintégrer la société. Il n'y a pas de structure, il y a des associations qu'on trouve à droite et à gauche, mais il n'y a pas quelque chose qui fait vraiment que, sorti du système, on peut y retourner. C'est-à-dire qu'on peut s'enfoncer dans la dépression, on peut s'enfoncer la dépression plus le divorce, plus autre chose. Est-ce que pour vous, de créer une société, là c'est à but idéologique aussi, j'en ai tout à fait conscience, et des lois qui n'existent encore pas, mais est-ce que pour vous la définition du mot santé passe aussi par ce que je viens de dire, est aussi ce que je viens de dire?
Alors, je vais répondre par des exemples. D'abord, nous, on n'a pas vocation à créer des sociétés. Hein. Ce sont les entrepreneurs qui sont très nombreux dans la salle.
Non, mais si vous aviez un entrepreneur qui serait dans ce sens-là, est-ce que pour vous, ça c'est chapeauté par le mot santé ou pas?
Alors, d'abord, ce que vous évoquez, c'est-à-dire la réinsertion de personnes qui ont, je dirais, échappé à un fonctionnement classique dans la vie sociétale, oui, ça correspond à nos sujets santé. Et ensuite, maintenant, donc la réponse est oui. Si un entrepreneur vient nous voir avec un projet dans ce domaine, on peut le regarder. Ça, c'est la première réponse. On regarde, nous, des projets qui sont susceptibles de se développer, hein, d'être rentables.
J'entends bien.
Donc pas des projets humanitaires.
Moi, j'ai
des liens par ailleurs avec Médecins sans frontières, Médecins du Monde, mais c'est de l'humanitaire. Hein. Donc ce sont des vraies structures qui se sont énormément développées. Mais oui, c'est possible.
On est quand même sur du pratico-pratique là.
Oui, tout à fait. Ouais. Et j'ai deux exemples en tête de sociétés qui se sont développées dans l'intermédiation sur le don vers un certain nombre de structures qui étaient soit humanitaires, soit caritatives ou autres. Donc ces deux sociétés s'appelaient respectivement Soliland et Charitic. À ma connaissance, elles étaient sur un segment, je dirais, d'accompagnement de personnes qui avaient envie de faire des dons. Donc c'est un petit peu éloigné de votre sujet, mais pas si éloigné que ça.
Ça reste dans l'esprit, ouais.
Ça reste un petit peu dans l'esprit, un tout petit peu. Alors Charitic a déposé le bilan au bout de 2 ans, et Soliland, à ma connaissance, ça allait pas très très fort. C'est-à-dire que l'intermédiation dans le financement humanitaire, j'y suis moi pas très très favorable. Alors ensuite, dans la question que vous posez, je dirais que c'est plus du ressort effectivement de structures associatives qui vont aller trouver des subventions, des financements publics ou de conseils généraux, de régions, de communes ou même les Restos du Cœur. Hein. Regardez ce qu'ont fait Goldman et Coluche. C'est une mécanique phénoménale. Moi, je suis stupéfait par ce développement-là. Donc, il y a des choses à développer, pas forcément dans le secteur de l'entreprise, dans le sujet que vous évoquez.
Merci.
Autre question on fait circuler parce qu'il y a plusieurs personnes.
Je reviens sur un conseil que...
Plus près.
Je reviens sur un conseil que vous avez donné en début de conférence à propos de l'importance de trouver un business angel leader qui allait porter le projet auprès des autres business angels. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour trouver ce soutien? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à pas faire? Voilà.
Là, je suis bien gêné pour vous répondre. Comment, quand on est un entrepreneur, trouver un business angel un peu leader? On va pas forcément le trouver tout de suite. On peut le trouver qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Mais plus tôt on le trouve, mieux on se porte. Sur la plupart des sociétés que je présentais tout à l'heure, je connais, j'ai identifié qui est le business angel leader. Donc c'est pas simple. C'est un conseil très personnel. Donc, en fait, je pense pas que ce soit forcément, enfin, que les autres présidents de réseau vous diront ça. Mais moi, je crois beaucoup au fait qu'il y ait une personne qui vous représente auprès des autres investisseurs, parce que c'est de la perte de temps d'aller expliquer à tous ces investisseurs votre business plan ou votre développement tous les trimestres ou tous les semestres. Vous, ce qu'il faut, c'est que vous développiez votre business. Donc ça, c'est un premier point. Ça peut être l'interface vers les autres. Et puis ensuite, il faut être lucide sur le fait que si c'est quelqu'un qui est un petit peu baroudé, qui a un petit peu investi dans des boîtes, qui a été successful dans les développements, il peut vous permettre de passer des étapes, d'être un ascenseur sur certains trucs qui, pour vous, peuvent être très bloquants. Donc c'est pas forcément une personne, ça peut être plusieurs personnes, mais c'est s'entourer de gens avec qui vous créez une relation forte. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, madame, vous parlez tout près du micro, mais ça marche.
Oui. Sur votre expérience de Business Angel, disons, sur les 10 dernières années, vous diriez que vous avez plutôt perdu de l'argent, gagné de l'argent, même si ce n'est pas votre motivation unique. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des avantages fiscaux du type FCPI ou quand on est Business Angel, dans l'argent investi, c'est investi dans des PME. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux à la clé?
Alors, votre première question, c'est est-ce que j'ai gagné de l'argent ou est-ce que j'en ai perdu?
Oui, savoir un petit peu votre bilan.
J'ai deux réponses sur mon bilan. Il y a certaines sociétés qui ont explosé, donc on fait plusieurs centaines de fois la mise initiale, mais je m'en suis occupé personnellement, donc c'est à la limite du business angel et de l'entrepreneur. Je suis un business angel à part, puisque personnellement j'ai créé 10 sociétés, et ce sont parmi ces 10 sociétés que je vois des vraies très très belles progressions. Et donc sur les sociétés que je n'ai pas créées, mes résultats sont plutôt neutres ou négatifs. Donc je suis lucide sur le fait que pour les entrepreneurs, développer de l'activité, du business, c'est pas facile. Mais je regrette pas d'avoir investi dans toutes ces sociétés, puisque j'y ai rencontré des entrepreneurs assez exceptionnels. Et je voudrais juste d'ailleurs en profiter pour faire un aparté. On a contribué à sélectionner 9 entreprises qui sont présentées aujourd'hui. Il y en avait un très grand nombre d'autres qui n'ont pas été retenues. Et je voudrais que les entrepreneurs ne nous en veuillent pas. On a juste, nous, fait une notation en fonction de notre intime conviction. Et je voudrais rappeler à ces entrepreneurs, il y a un petit Bill aux États-Unis qui avait développé DOS pour IBM. Et IBM lui dit non, ça ne nous intéresse pas. Et il a fait Microsoft. Donc des investisseurs qui sont pas très très astucieux par rapport au premier projet d'un entrepreneur, c'est très fréquent. Donc surtout, soyez convaincants et continuez. Maintenant ensuite, pour votre deuxième question, il existe des avantages fiscaux de différents types, TEPA, donc réduction ISF et IR, sur un certain nombre d'entreprises, mais il y a un certain nombre d'entreprises sur lesquelles ça n'est plus éligible. Par exemple, l'entreprise financière, il y a un certain nombre de sociétés sur lesquelles ça n'est pas éligible. Il y a également l'investissement via votre plan d'épargne action, et demain votre PEA, PME, à travers lequel c'est tout à fait possible d'investir. Moi, c'est mon principal conseil. Et une dernière question, je suis allé un peu vite là-dessus, non, on arrête.